Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos enfants, le téléphone et le virtuel, un texte de Patrick Lagacé, paru le 17 mars 2024 dans la presse. Que s'est-il passé autour de la fin des années 2000 et du début des années 2010 pour que le bien-être de nos enfants pique à ce point du nez? C'est une question qui me hante depuis longtemps. Je viens de lire un article dans The Atlantic qui fournit de formidables pistes de réflexion. Le thème : les enfants et les ados qui ne vont pas bien, justement. Le titre : And the phone-based childhood now. Qu'on pourrait traduire par : Il est urgent d'éloigner les téléphones de l'enfance. Je résume la thèse de l'auteur, Jonathan Haidt, psychologue social. Tout ce qui vient avec les téléphones intelligents, c'est malsain pour le développement des jeunes cerveaux. Haidt constate que l'ère numérique, qui a pris son envol à la fin des années 2000, avec l'Internet haute vitesse et le pivot vers la mobilité représenté par les téléphones intelligents, a achevé de bousiller la façon dont le cerveau des enfants et des adolescents se développait depuis des milliers d'années. C'est dans cette brève période, de 2010 à 2015, que l'enfance aux États-Unis et dans plusieurs autres pays a été reconfigurée vers une forme plus sédentaire, solitaire et virtuelle qui est incompatible avec un développement humain sain. C'est un article formidablement bien documenté sur ce que le temps passé sur des écrans fait au développement humain. Mais c'est aussi, peut-être surtout, un article sur ce que devrait être l'enfance, sur ce que devrait être l'adolescence. L'enfance humaine est un apprentissage culturel ponctué de tâches différentes à des âges différents jusqu'à la puberté. Pour les enfants de tous âges, un des plus puissants vecteurs de l'apprentissage est la motivation profonde de jouer. Jouer est le travail de l'enfance, et tous les jeunes mammifères ont le même travail, bâtir les connexions de leur cerveau en jouant vigoureusement et souvent en répétant les gestes et les compétences dont ils auront besoin à l'âge adulte. Or, note l'auteur, les enfants jouent moins dans le monde réel depuis qu'ils ont l'Internet au complet dans ce bidule qu'ils ne lâchent jamais. L'article de Haidt est nuancé. Il ne voit pas l'ère numérique comme le seul facteur ayant bousillé l'enfance à partir de la fin des années 2000. C'est pourquoi j'ai écrit plus haut que, selon l'auteur, l'ère numérique a achevé de bousiller le cerveau et le développement des enfants et des adolescents. Car le travail de sape avait commencé avant, constate Haidt, fin des années 1970 et début des années 1980, quand les parents sont devenus réticents à laisser leurs enfants jouer dehors sans supervision, de crainte qu'ils ne se blessent ou soient kidnappés. En lisant Haidt sur l'émergence de la surprotection parentale, j'ai repensé à cette curieuse nouvelle sortie il y a quelques semaines. La Société canadienne de pédiatrie a fait un plaidoyer pour le jeu risqué. Jouer près du feu, se tirailler, se faire une cabane dans le bois, explorer le quartier sans la supervision d'un adulte, jouer à rentre-dedans, c'est sain pour le développement physique, mental et socio-affectif des enfants. Je reviens à l'article « End the phone-based childhood now ». Mais la surprotection n'est qu'une partie de l'équation. La tendance vers une enfance moins indépendante a été facilitée par les constants progrès de la technologie numérique qui ont rendu facile et plus invitante l'idée pour les jeunes de passer plus de temps dans la maison, à l'intérieur et seuls dans leur chambre. Éventuellement, les compagnies numériques ont fini par avoir accès aux enfants 24/7, développant des activités virtuelles excitantes conçues pour de l'interaction qui n'a rien à voir avec les expériences du monde réel dont les jeunes cerveaux ont besoin. Aujourd'hui, note Jonathan Haidt, l'adolescent américain passe de 7 à 9 heures en moyenne sur des écrans. Ça explique la baisse du nombre d'heures de sommeil des ados qui a commencé au début des années 2010. Mais le coût le plus dévastateur de la prolifération des téléphones intelligents chez les jeunes serait l'effondrement du temps passé avec d'autres personnes en vrai. Encore là, le début des années 2010 marque une accélération d'une tendance chez les jeunes, celle de passer du temps avec ses amis dans le réel. Entre 2010 et 2019, ce temps a fondu de moitié. Or, passer du temps avec d'autres humains, en 3D, c'est nourrissant depuis des centaines de milliers d'années, note Haidt, à quatre égards. 1. Ces relations sont incarnées. Le non-verbal fait partie de la communication humaine, alors que la communication virtuelle est principalement basée sur l'écrit ou l'oral. Le virtuel crée des humains moins aptes à interagir en personne. 2. Les interactions dans le monde réel se déroulent en mode synchrone. C'est-à-dire ici, maintenant, on interagit en temps réel, ce qui renforce la proximité. Dans le virtuel, il y a moins de rires vrais, plus d'espace pour les malentendus et plus de stress quand un commentaire ne génère pas de réponse immédiate. 3. Les communications virtuelles se déroulent souvent devant public. Votre réputation est alors toujours à risque. Une erreur ou une mauvaise performance peut endommager votre statut social auprès d'un grand groupe de personnes. Ces interactions tendent alors à devenir plus théâtrales, performative en anglais, et causent plus de stress que la conversation face à face. 4. Les relations dans le monde réel nécessitent un réel investissement. Pour accéder à un groupe d'amis, par exemple, il faut une motivation pour investir dans les relations et pour réparer les liens quand il y a des pépins. Dans le virtuel, on peut bloquer n'importe qui. Ces relations sont jetables. Prenez tout ça, mélangez dans le grand malaxeur qu'est l'adolescence, et vous avez des jeunes qui, depuis 2010, vivent des existences virtuelles pour lesquelles le cerveau humain n'a pas d'affinité du point de vue de l'évolution. Les jeunes qui vivent leur puberté en ligne, comme c'est le cas pour ceux qui sont nés après 1996, soit à partir de la génération Z, sont plus sujets à la comparaison sociale, à la conscience de soi, à la honte publique et à l'anxiété chronique que les adolescents de la génération précédente, ce qui a le potentiel de mettre des cerveaux en développement dans une posture défensive par défaut. Or, quand votre cerveau est en posture défensive par défaut, note Jonathan Haidt, votre santé mentale est affectée. Ils ont tendance à voir le monde comme étant plein de menaces et sont plus vulnérables à l'anxiété et aux troubles dépressifs. S'il y a une meilleure explication pour la montée au début des années 2010, incluant dans ce pays des troubles de santé mentale chez les jeunes, je suis prêt à l'étudier. Mais la thèse de Jonathan Haidt est terriblement convaincante. J'y reviendrai. Je vous laisse sur la phrase la plus troublante de cet article, qui touche à l'idée qu'on se fait du danger pour nos enfants. Au début des années 2010, une génération déjà privée d'indépendance a été leurrée dans un nouvel univers virtuel qui semblait sécuritaire aux yeux des parents, mais qui est, en fait, à plusieurs égards, plus dangereux que le monde réel. C'était « Nos enfants, le téléphone et le virtuel », un texte de Patrick Lagacé, paru le 17 mars 2024 dans la presse. «
Sweet Baby, le studio devenu bouc émissaire de la wokisation des jeux vidéo. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 29 mars 2024 dans Le Devoir. Les guerres culturelles se trament aussi dans le secteur des jeux vidéo et le studio Sweet Baby de Montréal se retrouve dorénavant au front, victime d'une campagne mondiale de cyberharcèlement. La compagnie spécialisée en consultation sur la narration et les dialogues est la cible d'un mouvement réactionnaire en ligne, souvent très agressif, qui l'accuse de wokiser les jeux sur lesquels elle travaille. Les critiques dérapent par moments vers des théories du complot ainsi que des propos racistes et sexistes. Depuis maintenant près de 6 mois, la saisine d'employés et de dirigeants de Sweet Baby a reçu des milliers de courriels d'injures et de menaces, parfois de mort, évidemment anonymes, en provenance de partout sur la planète, le secteur étant mondialisé. Même le milliardaire Elon Musk, fondateur de Tesla, s'en est mêlé sur sa plateforme X en écrivant « Les jeux vidéo doivent se débarrasser de la bullshit woke. Les gens n'y jouent pas pour se faire sermonner par une propagande fastidieuse. C'est vraiment démesuré quand l'homme le plus riche de la Terre dit qu'on est une tache sur l'industrie du jeu vidéo, alors que Sweet Baby n'est qu'une compagnie en consultation dans le secteur, avec 16 personnes basées à Montréal. » Commente au Devoir David Bédard, directeur et chef des opérations du studio qu'il a cofondé en 2019 avec la scénariste Kim Belair. Des joueurs ont développé de la grogne contre une industrie qui change, qui se veut plus inclusive, qui est plus diversifiée, explique le directeur. Quand ils ont découvert notre existence, ils nous ont pris comme bouc émissaire de ces changements. On nous reproche énormément de choses avec lesquelles nous n'avons rien à voir, et cette campagne de harcèlement dure depuis 6 mois. Sweet Baby offre aux compagnies de production des services d'aide à la scénarisation pour un jeu complet ou à l'écriture de scènes ou de dialogues. Certaines de ces interventions sont faites afin de rendre les jeux plus respectueux des normes de diversité, d'équité et d'inclusion, en pratiquant une lecture sensible, par exemple. La firme a participé à la création du personnage noir d'Enger Boda dans l'univers de la mythologie nordique de God of War Ragnarok en 2022. Elle a aussi accompagné les scénarisations de productions majeures comme Assassin's Creed Valhalla en 2020, Dungeons and Dragons Dark Alliance en 2021 ou Suicide Squad Kill the Justice League en 2024. On a créé une Writer's Room avec 10 scénaristes et 6 producteurs, une équipe qui est maintenant, à mon avis, de renommée mondiale, dit M. Bédard. Notre mission, c'est d'aider les studios à raconter de meilleures histoires, des histoires plus authentiques. On se fait accuser de propager un agenda woke, de forcer les producteurs de jeux à inclure toutes sortes de messages et toutes sortes de choses dans leurs jeux, quand, dans la réalité, nous sommes des consultants et que nos clients prennent leurs décisions parfois après 5 ou 6 couches d'informations. Mobilisation en ligne. Certaines transformations, disons diversitaires, parfois simplement suggérées afin d'éviter des maladresses, déplaisent grandement à une frange plus conservatrice des amateurs de jeux vidéo. Les premières salves ont été lancées en octobre 2023 sur le forum de discussion Kiwi Farms, connu pour ses campagnes de harcèlement et son rôle dans la diffusion du manifeste raciste du tireur de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Les tirs ont continué sur les forums 4chan et Reddit, un groupe lié au mouvement créé sur la plateforme d'achat Steam le 29 janvier 2024 a maintenant gonflé à plus de 300 000 abonnés. Un autre sur le média social Discord en rassemble des milliers. Leurs membres traquent les œuvres où serait intervenu Sweet Baby pour recommander aux joueurs de les éviter. Les accusations portent généralement sur ce qui est perçu comme de l'excès de sensibilité diversitaire. la scène forte du jeu Suicide Squad où le personnage féminin Harley Quinn abat le viril Batman a déclenché les hostilités. L'apparition de la femme noire Saga Anderson comme l'une des protagonistes du jeu Alan Wake 2 a mis le feu au réseau. Les détracteurs ont même rendu Sweet Baby responsable, sans aucune preuve, des difficultés commerciales relatives de Spider-Man 2 et des récentes mises à pied massives dans le secteur vidéoludique. Le directeur Bédard assure que ses clients sont tous demeurés solidaires de Sweet Baby qui persiste et signe des contrats. Nous pratiquons une forme d'innovation dans un domaine culturel trop homogénéisé où toutes sortes d'histoires et de perspectives ne sont pas assez représentées. On essaie de créer un monde plus inclusif pour avoir plus de variété, dit-il. Dans la continuité du Gamergate, le secteur multimilliardaire du jeu vidéo a connu d'autres batailles, des guerres culturelles à la sauce américaine. L'une des plus marquantes est survenue en 2014 et 2015 lorsqu'une campagne de cyberharcèlement sexiste, le Gamergate, a été déclenchée contre la journaliste Anita Sarkeesian et les développeuses de jeux Zoe Quinn et Brianna Wu. L'initiative contre Sweet Baby a été comparée à cette controverse par des journalistes spécialisés. Le cofondateur du studio montréalais, David Bédard, accepte d'autant plus le rapprochement que pour lui, au fond, le cyberharcèlement révélé à l'époque n'a jamais cessé. J'en comprends qu'un groupe de personnes, et je vais supposer des joueurs masculins, probablement hétérosexuels d'ailleurs, voient plutôt négativement cette tendance que prend l'industrie pour se diriger vers une plus grande diversité, commente Élodie Simard, doctorante en communication à l'UQAM et spécialiste du secteur vidéoludique, en parlant de cette nouvelle bataille virtuelle. Ces personnages se plaignent que le contenu des jeux sort du classique protagoniste masculin hyper viril et blanc pour offrir des modèles alternatifs, des femmes racisées, entre autres. Madame Simard étudie la place de l'humour dans et autour des jeux. Cette arme à double tranchant peut aussi bien servir à renforcer qu'à critiquer certains discours discriminatoires ou stéréotypés. Elle a entendu parler il y a quelques jours de l'abracadabrante histoire à laquelle est maintenant mêlée Sweet Baby. Elle s'est depuis documentée sur la controverse et est allée lire des dizaines de pages de commentaires sur les réseaux sociaux. Elle souligne dans la déferlante un reproche concernant une supposée politisation du jeu vidéo par Sweet Baby. Pour les personnes qui critiquent certaines transformations en cours, le jeu devrait être apolitique, dit la spécialiste. Elles oublient que, même dans les représentations classiques, il y a une idéologie que le studio se dise politique ou non. Quand on ne fait que représenter des hommes blancs, on instaure une valeur. Madame Simard en est bien la preuve. Les études savantes sur le jeu vidéo par des femmes et dans une perspective féministe se portent plutôt bien à Montréal. Trois universités ont développé des programmes jusqu'au doctorat. En fait, des femmes ont été impliquées dès le départ dans les jeux vidéo, mais leur présence et leur rôle ont été un peu invisibilisés. À la longue, s'est créée cette idée que le jeu attirait principalement des hommes renfermés socialement et manquant d'habileté sociale, alors que dans les dernières années, on a découvert un monde qui sert d'outil de socialisation et où le public est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait à la base, note-t-elle. C'était Sweet Baby, le studio devenu bouc émissaire de la wokisation des jeux vidéo. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 29 mars 2024 dans Le Devoir.
Quand Alexa et Siri ne comprennent pas. Un texte de Mathieu Perrault paru le 21 avril 2024 dans La Presse. Les bègues et les sourds-muets peinent à se faire comprendre par l'intelligence artificielle. Au dernier congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAAS, en février 2024, au Colorado, Des chercheurs ont décrit les obstacles pour ces groupes minoritaires et pour d'autres. Le bégaiement est relativement rare et comprend beaucoup de variations, expliquait Xiaomei Wu, une chercheuse californienne qui a fondé la firme d'équité technologique Alm Power. Mais 3 millions d'Américains en souffrent. Comme d'autres troubles du langage, le bégaiement empêche beaucoup de gens de profiter des avancées technologiques de reconnaissance de la voix. Par exemple, on peut avoir des délais importants quand on appelle le 911. C'est un problème réel. Madame Wu était accompagnée dans la séance de l'AAAS sur l'intelligence artificielle et les troubles du langage par Abram Glasser, un informaticien de l'Université Gallaudet à Washington, qui se spécialise dans la reconnaissance par l'IA de la langue des signes, et par Hannah Rowe, une orthophoniste de l'Université de Boston, qui travaille sur les troubles neurologiques de la parole. Madame Wu est bègue et M. Glasser est sourd et a donné sa présentation en langue des signes, avec une transcription orale par un interprète humain. L'Université Gallaudet accueille des étudiants sourds et malentendants. Le problème principal est qu'il n'y a pas assez de bases de données langagières pour entraîner l'IA en reconnaissance de la parole des bègues, explique Mme Wu. Le bégaiement a généralement 3 aspects, selon Mme Wu. La répétition des mots, l'allongement de certaines syllabes et un délai anormalement long entre 2 mots. Un seul outil de reconnaissance vocale pour bègue existe, selon Mme Wu, un projet pilote de Meta qui fait beaucoup d'erreurs. Sinon, il y a une demi-douzaine de bases de données vocales de bégaiement, notamment de Google et d'Apple, mais on ne dépasse pas une 50aine d'heures d'enregistrement. Il faut des milliers d'heures pour entraîner un logiciel d'IA de reconnaissance de la voix, nous dit Mme Wu. Dysarthrie. Mme Rowe se spécialise dans la reconnaissance de la voix de patients atteints de dysarthrie. Il s'agit d'un trouble de l'élocution dû à des problèmes de puissance et de contrôle musculaire liés à des troubles neurologiques comme le Parkinson, les AVC et la sclérose latérale amyotrophique. Ce sont des patients qui ne peuvent pas bénéficier des avantages des assistants vocaux Alexa ou Siri, alors même qu'ils ont souvent des problèmes de motricité physique qui rendraient ces technologies particulièrement utiles, dit Mme Rowe. Il y a beaucoup de variabilité entre patients. Donc, on n'a pas encore réussi à générer des bases de données langagières permettant d'entraîner les logiciels d'IA. Chez les patients présentant une dysarthrie faible, les logiciels font 10 % d'erreurs, comparativement à moins de 1 % pour les locuteurs moyens. À un stade modéré de dysarthrie, le taux d'erreur bondit à 35 % et à un stade sévère à 80 %. L'une des avenues envisagées est d'avoir des modèles de reconnaissance de la voix individuelle. En laboratoire, on parvient à abaisser à 5 % le taux d'erreur pour la reconnaissance de la voix des patients avec dysarthrie sévère, dit Mme Rowe. Mais il faut des dizaines d'heures d'enregistrement associées à des retranscriptions. Il faut valider les retranscriptions avec les patients. C'est très lourd. D'autant plus que ce sont des patients qui se fatiguent plus facilement, pour qui il est difficile de parler. Mme Rowe travaille donc sur la caractérisation de différentes dysarthries pour diminuer le nombre d'heures d'enregistrement nécessaires pour les modèles personnalisés de reconnaissance de la voix. Nous avons publié quelques propositions ces dernières années. Le Parkinson, par exemple, a comme caractéristique des consonnes imprécises. Si le logiciel de reconnaissance de la parole par l'IA en tient compte, il va apprendre plus rapidement à reconnaître le discours d'un patient spécifique, nous dit Hannah Rowe. Dans la revue Frontiers in Computer Science en 2022, Madame Rowe exposait son plan de travail. Identifier les sources de diversité entre individus dans les troubles moteurs de la parole et leur impact potentiel sur la reconnaissance de la parole par l'IA. Avec ces données, normalement, nous allons accélérer l'entraînement individuel d'un logiciel par un patient, dit-elle. Surdité. Les personnes sourdes et malentendantes et qui ne sont pas muettes ont aussi des problèmes avec la reconnaissance de la voix, selon M. Glasser. S'il s'agit d'un trouble de naissance, l'intonation n'est pas la même que pour la moyenne de la population. L'IA de reconnaissance de la voix fait beaucoup d'erreurs. Cela fait en sorte que cette population utilise très peu cette technologie. Pour ce qui est de la reconnaissance de la langue des signes, un problème bien concret est posé par la protection de la vie privée. Il faut voir la personne dans la vidéo d'entraînement de l'IA. Avec la voix, c'est plus anonyme. Alors les logiciels de reconnaissance de la langue des signes ne progressent pas. Une autre avenue, explorée par M. Glasser, est un avatar qui permettrait aux sourds d'avoir des conversations audio avec la lecture des lèvres. Mais la création d'un avatar dont les lèvres bougent comme un humain qui parle n'est pas encore au point. En savoir plus. 15 millions. Nombre de patients souffrant de dysarthrie dans le monde. Source, Université de Boston. 70 millions. Nombre de bègues dans le monde. C'était « Quand Alexa et Siri ne comprennent pas », un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 avril 2024 dans La Presse.